continuer notre méditation sur l'espérance. Devenu intermédiaire du Seigneur, qui est précisément le signe du Fils de l'homme, comme le dit l'Apocalypse, comme le dit Saint Jérôme et Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, n'est que le commencement d'une profonde transformation de l'Église pour la rendre capable d'attirer à elle, de faire apparaître la Jérusalem céleste au terme. Saint Thomas d'Aquin précise, docteur principal de l'Église, qu'il y a 11 étapes entre le signe du Fils de l'homme et le retour du Christ pour juger les vivants et les morts. On a encore beaucoup de travail à faire. Et seulement, ça devient glorieux, quoi. Là où se trouve le cadavre, là se trouvent les vautours. Vous voyez, ça c'est impressionnant. Quand Jésus parlait du Fils de l'homme, là où se trouve le cadavre, là se trouvent les vautours. Le cadavre, tout le monde a compris ce que ça voulait dire. C'est quand l'Église vit de Jésus dans l'état cadavérique. Quand l'Église, extérieurement, est rendue à l'état de cadavre. C'est le plus grand moment de la joie de l'Église, même sensible, parce que la visitation, c'est une joie très sensible. Et pas seulement sensible, d'ailleurs, évidemment. Et alors, les vautours, c'est ceux qui dévorent la chair du Fils de l'homme, qui se nourrissent de l'Eucharistie. C'est merveilleux, ça. Alors, et ils vivent de ce que Jésus vit. Enfin, ils vivent de ce que Marie vit, au fond. Ils vivent de ce que les saints vivent, de ce que Marthe vit. Vous voyez, Marthe, elle vit de cette espèce de torrent, de jaillissement, de bonheur. Parce qu'elle est dans l'état de Jésus, cadavre. Sur la croix, toute sa vie. Et c'est pour ça que demandez-lui de revenir jeune fille pour aller à la fête du village et danser et s'amuser, elle n'aurait rien à tirer, hein, elle n'aurait strictement rien. Et vous non plus. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas danser. Elle aime danser. Tout ça serait très sympa. Mais on ne lâche pas la proie pour l'ombre, n'est-ce pas ? C'est pour ça, ce deuxième mystère joyeux du second avènement du Christ, c'est un très beau mystère, très beau, très beau. Il est très profond, il faut qu'on soit de plus en plus sensible. Vous connaissez un petit peu mon idée fixe. Mystère glorieux, mystère de l'avènement de la croix glorieuse, est très très lié à notre sensibilité de ce qui se passe dans les limbes. Vous le savez, ça. Quand Jésus est à l'état sanglant sur la croix, hein, quand Jésus est crucifié, il y a son corps, le cadavre, quoi. Ça, c'est la croix sanglante. Hein? Mais pendant ce temps, son âme, l'âme de Jésus, c'est l'âme humaine de Jésus, elle s'est détachée, arrachée de son corps. Ça, je crois que c'est facile à comprendre, parce qu'il paraît que je suis compliqué, je vais aller lentement. Elle s'est arrachée de son corps. Elle est allée où? Elle est allée où? Et comment? Quand vous l'aurez, hein? Bernard Majon. Thérèse de l'Enfant Jésus savait très bien tout ça, hein? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est descendu aux enfers. Et on dit dans le credo, ça c'est le reste, c'est la. Il y a des tonnes de bouquins, des docteurs de l'Église là-dessus, pour savoir qu'est-ce, comment, etc. Hein? Alors vous allez me dire, oui, mais attends, ça c'est un mystère, donc on ne peut pas le comprendre. C'est un mystère, donc on peut le comprendre. C'est Luther qui dit, c'est un mystère, donc on ne peut pas le comprendre. Parce que Saint-Pierre, il dit, puisque c'est un mystère, eh bien on le comprend. Alors si je dis 1 plus 1 égale 2, peut-être qu'au début je ne comprends pas, mais à partir du moment où j'ai compris 1 plus 1 égale 2, ça y est, maintenant pour moi c'est clair, je deviens fort en maths, 1 plus 1 égale 2. Donc une fois que 1 plus 1 pour moi égale 2, c'est évident, ce n'est plus un mystère, j'ai tout compris, j'ai plus rien à comprendre. Tandis que quand je commence à comprendre quelque chose en plénitude dans un mystère, je commence vraiment à comprendre un mystère complètement, eh bien j'ai pas fini de le comprendre. C'est pour ça que c'est un mystère. C'est-à-dire que quand c'est pas un mystère, quand je l'ai vraiment compris, j'ai plus rien à comprendre. Parce que dans un mystère, quand je le comprends vraiment, bien et de l'intérieur, j'ai encore quelque chose à comprendre. J'ai jamais fini de le comprendre. Donc un mystère, on comprend infiniment plus de quelque chose qui n'est pas un mystère. Et Luther, il dit un mystère, on ne comprend pas. Donc, pas besoin de faire une retraite à Châteauneuf de Galore où on explique le mystère. Pas besoin qu'il y ait la doctrine infaillible du Saint-Père. Pas besoin. C'est beaucoup trop touffu. La doctrine du Saint-Père, c'est trop touffu. Il y en a trop, quoi. Oui. Alors, donc, excusez-moi, j'en étais pas là. J'en étais à la part. Quand Jésus, je reviens. Jésus meurt sur la croix. La forme du corps de Jésus, je crois que je n'ai pas besoin de vous la décrire. Mais à quoi ressemble une âme humaine? Ça ressemble à quoi, une âme humaine? On ne sait pas, pardon, on le sait très bien. L'âme, notre âme, depuis Aristote, ouais, on le sait très bien. L'âme a la même forme que le corps. La même forme, sauf qu'elle est sans matière. Avec quoi est-elle fabriquée? Avec de la lumière vivante. Aristote dit, peri psyché d'Aristote, et il le démontre. Hein. C'est une démonstration par induction. Donc elle est irrenversable. C'est repris, bien sûr. L'âme humaine, c'est la forme, c'est repris par exemple par le Concile de Vienne. Donc, c'est appartient à la foi catholique, dogmatique. L'âme humaine est la forme substantielle du corps. Donc, elle se détache, elle a la même forme. Si jamais je meurs là, et vous aussi, on met une bombe à neutrons là, pouf. Mon corps, pouf. tombe pas sur le bureau, vous sur vos chaises, et puis nos âmes vont se retrouver. Alors, je vais voir Bernard, là. Dis, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est bizarre. Ah, tiens, t'es encore ici, là, sur la chaise. On va se reconnaître très, très, très bien, sauf que t'auras pas de lunettes, c'est tout. Et moi, je serai moins gros. Avec des défauts en moins. Avec quelques défauts en moins. Ceux qui ne viennent pas du péché, ceux qui ne viennent pas du péché personnel, ont disparu. Les défauts qui viennent de nos péchés, c'est différent. Pardon. Alors, on se reconnaît très bien. Donc, on a la forme, l'âme a une certaine forme. Donc, et elle épouse. Donc, quand le corps de Jésus est déchiré, l'âme humaine de Jésus est déchirée aussi. Donc, il descend crucifié par l'âme dans les enfers. C'est-à-dire dans les lieux inférieurs, là où il y avait la première personne qui va voir. Pour épancher toutes les plaies de son âme, c'est son papa. Et il l'a dit, au moins. Il y a 19 passages où il l'a dit, 19. Alors, quand même. Et puis c'est le credo. Il va dans les limbes. Il a 36 choses à faire dans les limbes. 36 heures. Faites vous-même le calcul de ce qui se passe entre la mort de Jésus et la résurrection. Regardez tout ce qu'il a fait. Il y a des choses. Et essayez de repérer, les gens curieux, les 36 œuvres du Christ dans les enfers. 36 heures. De lance a eu lieu après, hein. Le bon larron, il est mort après le Christ. Ah, eh oui. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Il était déjà mort. C'est quand vous lisez attentivement, vous verrez, il y en a des choses. Oui, donc c'est quelque chose de très beau de voir que Jésus vient visiter les lieux inférieurs. C'est ça la visitation de la parousie, le signe du Fils de l'homme. Vous voyez, de l'Orient à l'Occident, tous le verront, du profond de la terre jusqu'au sommet du ciel, tous, vous voyez, verront ce signe. Entendront cette trompette, verront leur âme dans la clarté du Christ, regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc dans les limbes aussi. Et quand Jésus, si vous voulez, il est sur la croix, hein, donc dans son corps il est sur la croix, donc ici c'est la croix sanglante. Mais quand son âme, qui a la même forme que son corps, est déchirée, la croix est dans son âme aussi. Son âme humaine est déchirée. Bon, écoutez, quand on vous donne un grand coup de couteau dans le ventre, ça ne vous arrive pas souvent. Tac, et ça fait mal. C'est vrai, vous ne trouvez pas? Ça fait mal. Mais si vous étiez déjà mort, ça vous fait pas mal. Donc c'est bien l'âme qui a mal, c'est pas le corps. C'est l'âme végétative qui éprouve la douleur, c'est pas le corps. Le corps est juste l'instrument, c'est tout. Le corps en tant que tel ne souffre pas, c'est l'âme qui souffre des douleurs physiques. Hein. C'est important pour comprendre l'enfer. Quand dit, en enfer, il n'y a pas de feu, on ne brûle pas, c'est symbolique. Pardon ? C'est contraire à la foi catholique. C'est un dogme. Hein. Celui qui pense que ce n'est pas vrai, alors là, il a perdu totalement la foi catholique. C'est défini par l'Église, ça. Ça, faut être très ferme là-dessus. Une chose est sûre, c'est que l'âme de Jésus est déchirée, quoi. Mais il est sûr aussi, on en est absolument sûr, que donc, la croix lumineuse, si vous voulez, la croix immatérielle, Jésus crucifié, descend dans les enfers, ben, quand il descend des enfers, c'est vraiment la croix du Seigneur qui descend avec lui, mais pas fondante, parce que l'âme ne donne pas du sang. C'est la même blague. Et son âme vient s'engloutir par l'amour, par l'attraction, etc., par la véhémence de la charité, dans l'âme de son papa, et de tous les autres par après, ou en même temps, si vous le voulez, mais dans l'âme de son papa, oui, il trouve, lui, âme humaine de Jésus, pourtant le Fils éternel de Dieu, il trouve dans l'âme humaine de son papa la possibilité pour la personne du Père éternel de venir se conjoindre à la personne éternelle du Fils à travers deux âmes en une seule plaie. Et c'est là que l'unité du Père éternel et du Fils éternel, dans cette charité de ces deux âmes dans les limbes, produit l'Esprit Saint par cette rencontre. Et c'est ainsi que la croix de l'âme de Jésus, descendue aux enfers, devient glorieuse. C'est pour ça que la tradition de l'Église dit qu'au moment de la croix, à l'instant de la mort de Jésus, il y a distinction à faire entre la croix sanglante et la croix glorieuse. Aussitôt Jésus, comme dit saint Thomas, est glorifié dans toute son âme. Toute l'âme déchirée de Jésus devient glorieuse. La croix devient glorieuse. Je crois que c'est facile ça à comprendre. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais... Et vous voyez, dans la liturgie, par exemple, il faut le prendre sous beaucoup de d'angles d'attaque, sinon on ne saisit pas. C'est beau ce mystère, hein, du second avènement, du deuxième liturgieux, l'avènement du Christ. C'est très beau. Moi, je l'aime particulièrement. J'en discutais beaucoup avec un ermite à un moment, hein, qui s'appelait le Père Jean. C'était un jour bien passé vers l'avant. Il paraît que je me disperse, donc je reviens. Et c'est vrai, je me disperse tout le temps, ça doit être pénible. Donc je reviens. Jésus. Oui, reprenons par un autre aspect, j'étais là. La liturgie, dans la liturgie de l'Église. Quand dans la liturgie de l'Église, vous voyez, vous avez le Vendredi Saint et le Samedi Saint, à la messe, enfin, dans les, pas la messe, aux offices, vous savez bien qu'il n'y a pas la messe, aux offices du Vendredi Saint soir et puis du Samedi Saint, ben, on fête, on vénère, on glorifie, dans les antiennes, la descente de Jésus dans les enfers. Et on voit, et dans les icônes aussi, dans les mosaïques, dans les représentations traditionnelles, la descente de Jésus en enfer, pour marquer que Jésus descend aux enfers avec une croix glorieuse. Dans les trucs de catéchisme, il descend avec une croix glorieuse quand il descend aux enfers, il est représenté avec une croix glorieuse dans les bras, comme ça, descendant aux enfers. C'est-à-dire dans les limbes, si vous voulez, dans les yeux. Il va voir Adam, Abraham, Moïse, Lazare. Pas le Lazare qui l'a ressuscité, l'autre. Et il va voir tout ce petit monde, enfin, tout ce grand monde, cet immense monde-là, Noé. Il descend dans leur âme, si vous voulez. Il pénètre en eux, comme il pénètre en nous par l'Eucharistie, par la grâce. Et on il représentait qu'une croix glorieuse. Il représentait avec le fruit de l'Eucharistie, avec la res, la réalité du sacrement. Vous voyez ? De l'Eucharistie. Et il descend dans leur âme, c'est leur première communion. Et dans leur... dans leur, comment dire, dans les représentations, on le représente avec une croix glorieuse. Alors on voit Jésus crucifié sur le Golgotha, et puis son âme qui descend aux enfers, et puis il est avec une âme glorieuse, et puis il y a plein d'anges qui le précèdent, et puis qui sonnent de la trompette. Vous avez jamais vu ces représentations? Il y en a des milliers. Et dans la liturgie elle-même, dans la liturgie elle-même, qui fait partie donc de la liturgie, donc quand vous savez, quand on met des antennes dans une liturgie, l'Église engage son infaillibilité, hein, sur la sanctification. Une liturgie, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas zéro la liturgie. C'est pas le plus important, mais c'est pas zéro. Et là, qu'est-ce qu'on dit le vendredi saint, samedi saint? On dit, qu'est-ce qu'ils disent les anges dans les anciennes? On dit que les anges disent dans l'ancienne, n'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Voilà ce que disent les anges quand ils annoncent par la trompette la venue, la visitation de notre Seigneur dans les limbes. Et la première parole, le Saint-Père, un autre aspect, tiens, le Saint-Père, Jean-Paul II. Première chose, première parole, lorsqu'il ouvre le balcon, que Jésus sur la terre, Jean-Paul Ier, a été crucifié le 33e jour. De son pontificat, qui rejaillit dans les lieux inférieurs de ce monde, parce qu'on est vraiment dans les lieux inférieurs de ce monde, dans un monde où c'est l'avortement qui domine, 1978, sur toute la Terre, puisqu'il y a plus de naissances avortées que de naissances. Donc le poids est passé du côté des enfants avortés. Le poids de l'humanité, c'est là. Alors, je n'ai pas besoin de dire qu'il dit, ouvrez toutes grandes vos portes, n'ayez pas peur. Les paroles de la parousie. Qu'est-ce qu'il met sur son blason? Une croix glorieuse. En quelle année a-t-il été monté sur le pontificat, de ce pontificat? En l'an 5738 du calendrier d'Israël. 5 en hébreu, vous savez, c'est le M de Marie qui a dans son blason, et 738, c'est l'altitude du Golgotha, 738 mètres. Ah, ce 738, il est bizarre. 738 mètres. Hein? Pourquoi? Parce que la croix glorieuse découvre les profondeurs de Satan. C'est grâce à la croix glorieuse, qui illumine de l'intérieur le péché du monde, que sont mis à nu nos péchés. Et Satan, il dit, ça c'est pas un péché, ça, mais on voit le péché à visage découvert. C'est pour ça que 738, tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Jésus descend dans les profondeurs de l'Antichrist, en largeur, en hauteur et en profondeur, et il est démasqué. La parousie met à nu nos péchés, mais aussi la victoire de l'amour de Jésus pour nous sauver. C'est pour ça qu'il est mort à cette altitude. C'est pour ça que vous savez bien que les bénédictins, qui sont des gens très très précis, depuis bien des siècles. Quand il fait son petite croix pour les exorcistes, ils font des croix de 7 cm et 38 mm. Vous saviez ça? Bon, c'est pas grave. C'est une autre manière de regarder ce qui se passe à la parousie. C'est une visitation. Il nous libère du mensonge sur le péché, si vous voulez, voyez. Quand vous péchez, vous dites que vous avez fait, vous avez craché sur le, je sais pas moi, vous avez fait un gros péché quoi, un gros péché. Vite, vite, c'est tout qui pue de trace. C'est ça, instinctivement quoi. Le démon il fait ça, quoi. Il a péché vite, vite, on cache tout, on fait, que surtout ça se voit pas quoi. Personne ne puisse en douter. Alors, au confesseur, on le dira en gros, quoi. Hein. Et ça, c'est... Parce que Jésus, lui, il veut déraciner, il veut mettre la joie à la place. C'est ça, la parousie, c'est la visitation, quoi. Vraiment, c'est une très très belle chose, quoi. Très très belle, vraiment. Mais, vous voyez, les vierges folles, les vierges sages, on y est vraiment dedans, quoi. Hein. On s'y prépare. Et c'est pour ça que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Église que le pouvoir des clés de l'Église demande, enfin, c'est à Toulon, hein, le premier, mais aussi au Brésil, à Londres et tout ça, qu'on fasse des cérémonies pour que le mystère de l'Eucharistie offre le secours de la présence eucharistique aux enfants qui sont avortés dans les limbes, pour qu'ils puissent rentrer, qu'ils ne soient pas exclus du rayonnement de l'Eucharistie. Là aussi, c'est un signe. C'est une préparation, en vérité. Vous voyez ? C'est une préparation. On se prépare, voilà. On s'habitue, on est très sensible à ça. L'humanité elle-même, elle est avortée. Nous sommes dans un état, au fond, d'avortement, quoi. Nous, les jeunes, l'Église et le Saint-Père. Nous sommes des gens mis à mort, mais qui continuons de vivre sur la terre dans le temps. Le pape a été mis à mort, mais il continue de vivre. Il aurait dû mourir. Mais ils continuent de vivre. Les enfants avortés, c'est pareil. Ils ont été mis à mort, mais ils continuent de vivre dans les limbes, dans le temps. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont été mis à mort, ils vivent quand même. Mais en fait, ils vivent comme des avortés. La jeunesse d'aujourd'hui. Et ils le savent. Mais ils n'en peuvent rien. C'est le climat du monde d'aujourd'hui. On est dans un état de terrible. On a besoin de la visite de la croix glorieuse. On a besoin de Jésus, que Jésus vienne illuminer, au fond, et nous faire participer à ce cri silencieux de Jésus sur la croix. Et donner une signification nouvelle à cet état, qui est finalement un état de grâce, sans qu'on s'en doute. C'est très très beau, je trouve. Et le secret silencieux de ce qui jaillit de notre innocence divine avortée, cette liberté qu'on n'a plus, quoi. Cette innocence divine qui crucifiée, qui avortée, qui triomphe. Dans la visite de l'innocence triomphante de Jésus, avec notre cri silencieux est là, et il prend une signification sainte. Ah ouais. Du coup, on aime tout le monde. Oui. Qui est-ce qui dit le contraire, excuse-moi? Oui, le pape Innocent III et le pape Pie VI ont défini que ceux qui disent que les limbes sont une fable sont dans l'erreur. Donc, on n'a pas parlé des limbes, mais on a condamné ceux qui disaient que l'âme était une erreur. Ça revient même. Pape Pie VI. Tu sais quand c'est ce qu'il a dit, ça, le pape Pie VI, au moment de la terreur révolutionnaire en France. Il a bien choisi son temps, quoi, ce moment, pour parler de ça. C'est une hérésie janséniste de dire que l'âme n'existe pas. Ils ne sont pas baptisés, ils sont en enfer. Ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas en enfer. Ils ne sont pas baptisés, mais ils sont au ciel quand même. C'est faux. Puisque le Saint-Père, dans son encyclique, Evangelium Vitae, par exemple, il dit bien cette chose, que il faut les consacrer à la miséricorde du Seigneur. S'il faut les consacrer à la miséricorde du Seigneur, c'est qu'ils sont au ciel. Hein? Je crois que c'est facile, ça. Alors, je sais bien que... Bon, il y a... T'inquiète pas, quoi, c'est pas un problème. Mais si tu veux des précisions là-dessus, il y a sûrement des gens dans l'Assemblée qui pourront te donner des précisions. Mais t'inquiète pas, quoi. Je veux dire, c'est pas un problème là-dessus. C'est la nécessité absolue du baptême pour le salut qui fait que l'Église peut pas... Même tu prends... Ou tu prends, tu liras le peuple majeur, c'est là-dessus. Bien sûr, tu peux lire, tout à fait. Tout à fait. Non, je sais bien qu'il y a une querelle, hein. Il y a une querelle. Et la querelle est tellement forte, c'est normal, parce que le démon ne veut pas, hein, qu'on en parle de ça, hein, surtout maintenant. C'est très très mal vu, hein. Très très mal vu. Alors, du coup, j'ai une opinion théologique, c'est pas sûr. Et attends, attends. Et la bulle d'exhortation du pape Pie VI et celle d'Innocent III n'a aucune valeur. Enfin, c'est défini, déjà. C'est incroyable, quoi. On puisse mettre la parenthèse sur certaines définitions de l'Église. Bon, c'est mal vu. Mais je m'en fiche, moi, que c'est mal vu. C'est difficile à expliquer, je m'en fiche. Et il faut absolument comprendre ça, que le Christ silencieux des enfants qui vivent encore sans leur corps doit faire partie de l'Église militante, puisqu'ils ne sont pas dans l'Église glorieuse. Et que ça, c'est à nous, c'est le Christ et nous qui doivent les faire pénétrer dans l'Église militante. Et donc nous épousons leur spiritualité, qui est le Christ silencieux, qui dit, mais il faut absolument que Jésus revienne. Il n'y a qu'un seul cri pour eux, c'est le retour du Christ. Un seul désir, il n'y en a pas d'autre. Si ils s'associent à notre grâce eucharistique, et il faut les faire rentrer dans la communion des saints. C'est la spiritualité du second mystère joyeux. Voilà, je crois que c'est... Ça fait partie la même atmosphère, vous voyez. Pardon ? Ah non, le baptême, on ne peut pas baptiser. L'Église définit qu'on ne peut pas baptiser les enfants après leur mort. On ne peut pas baptiser un enfant après sa mort. On le baptise de son vivant, quand il est avec un corps. On ne peut pas baptiser un enfant après sa mort. Les sacrements, c'est avant la mort. Après la mort, il n'y a plus de sacrements. La grâce peut atteindre les gens après leur mort si on fait déborder les grâces que... Toi, tu communies, tu es encore vivant, tu vois. Tu fais déborder la grâce de la présence eucharistique sur ce petit enfant que tu penses. Donc, tu vois, petit enfant, ta voisine. Pardon ? Ça le sort pas des larmes, ça le fait rentrer dans l'Église. Ça le fait rentrer dans ton cœur. Ça le fait rentrer dans ta grâce. Ça le fait rentrer dans le corps mystique qui est en toi. Ça le fait rentrer dans une découverte de sa vocation. Ça le fait rentrer dans une prière pour ses parents. Ça le fait rentrer dans une prière de pardon. Ça le fait rentrer dans la reconnaissance. Ça le fait rentrer dans le désir. Ça le fait rentrer dans la sainteté. Ça le fait rentrer dans la respiration que Jésus avait. Que tout s'accomplisse. Et encore, enfin, je ne veux pas trop rester là-dessus parce que c'est pas le sujet, si vous voulez. On est un petit peu en dehors. Encore que c'est normal que la modalité particulière spirituelle du cri silencieux associé au cri silencieux du Christ sur la croix. Quand le cœur de Jésus est cadavérique, qu'il est mort, et que son corps, son cœur s'ouvre, ce cri de soif, sans parole humaine, de Jésus, du Verbe de Dieu dans son corps mort, est un cri silencieux. C'est le cri silencieux du Verbe de Dieu dans un corps mort. Et c'est pour ça que c'est eux qui vont recevoir cette grâce-là. Puisque dans leur âme morte, ils vont recevoir, et leur cri silencieux, ils peuvent recevoir la même puissance, si je puis dire, ce cri silencieux du Verbe de Dieu dans son cœur cadavérique déjà mort, cri de soi. D'ailleurs, Jésus, il y a un livre, si vous voulez pénétrer ce mystère-là, il y a un livre très beau du Père Marie-Dominique Philippe qui s'appelle « J'ai soif ». Magnifique. 200 pages, rien que dessus. Et c'est au couteau, hein, c'est pas de la poésie, hein, c'est ça. Oui. Le Père Marie-Dominique Philippe, j'ai soif. En 5738 du calendrier d'Israël, c'est l'année 1978 de notre ère. C'est là que le Saint-Père est monté sur le trône de l'Église de Rome. C'est magnifique. Et tout est cohérent. J'ai soif. Jésus sur la croix, avant de mourir, dit « j'ai soif ». Mais ce n'est qu'une prophétie. Ce n'est qu'une prophétie. Il meurt, et en fait, c'est la personne du Verbe, dans le cœur cadavérique du Christ, qui exprime cette soif ardente. Ce n'est plus l'humanité de Jésus qui a soif. C'est la personne éternelle du Verbe de Dieu qui enfin a soif. Parce que le Verbe de Dieu n'a jamais soif. Mais dans le cœur cadavérique du Christ, il a soif. À travers le corps cadavérique du Christ, il a soif. Alors du coup, il y a tout à lui. C'est pour ça que l'Immaculé, qui est très libre, est absorbé en lui. Et oui, on lui présente le vinaigre pour bien montrer que c'est pas ça qu'il a réclamé, mais que c'était pas ça, que c'était une prophétie pour autre chose, une autre soif. C'est... J'ai soif, Père Marie-Dominique Philippe. Hein? Alors, cette grande puissance de Dieu dans le Christ, dans le corps de Jésus, c'est cette grâce-là qui doit être donnée à ceux qui sont dans les limbes, parce que ceux qui sont dans les limbes, les petits enfants, ils sont dans un cri de soif incroyable. Hein? Une souffrance incompréhensible, substantielle, un abandon total, il n'existe pour plus personne. Ils sont dans dans un état de mort absolu et puis en même temps d'incapacité de faire quoi que ce soit. Incapacité, ils ne peuvent pas faire un acte d'intelligence, pas un acte de compréhension, pas un acte de relation, pas un acte d'affection, rien. Ils sont dans cet état de souffrance, cri silencieux. Et donc il est nécessaire que nous ayons cette miséricorde, comme dit Saint-Père dans l'Évangile, une vitae pour eux, qu'on puisse les rejoindre pour qu'ils soient dans cette cri de miséricorde du Seigneur et qu'ils puissent enfin jouer leur rôle. Et c'est eux qui auront la plus grande grâce de tous les temps pour rentrer au ciel. Donc ils sont baptisés par un baptême de feu. Qui ne les consacrera en tant que tels que la parousie. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs ces messes pour eux, parce que c'est pour leur... Mais un petit peu comme on fait des cérémonies d'introduction baptême, d'abord la première onction de suite, l'introduction dans l'église, etc. Oui. Ah, c'est pour ça qu'on fait ces cérémonies, parce qu'ils rentrent déjà, ils sont dans l'église grâce à l'Eucharistie, grâce au pouvoir des clés de l'évêque, unis au Saint-Père, et voilà. Regardez, ça commence à souffler. Oui. Mais bien sûr, tous les morts, tous les enfants morts avant la naissance sans baptême. Ceux qui sont morts après, oui, mais c'est difficile. On ne peut pas donner de date limite. C'est difficile à dire. Oui, je comprends, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup, j'ai pas pu faire ma. Oui. Oui, il y a, au contraire, c'est eux qui viennent, ils veulent écouter. Ils sentent que les arbres, c'est-à-dire leur croix, commencent à vivre. Vous savez, quelquefois, à chaque fois que... C'est pas la première fois que j'en parle, vous savez, à chaque fois, il y a des petites choses merveilleuses, très jolies, très belles, très émouvantes. Parce qu'ils sont contents, hein, c'est moi qui foutis. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des torrents de lumière quand on fait cette prière pour un torrent de lumière, des torrents de lumière. Alors il y en a un bain de bonheur, hein, de joie. C'est eux qui communiquent ça. La crise silencieuse de tout incompréhensible devient enfin compréhensible pour eux et joyeux. Ah oui, ça c'est normal. Bon. C'est rien. Oui. Alors, un tout petit passage de rien du tout. Un tout petit passage. Non, ne vous inquiétez pas, il y a une deuxième conférence tout de suite. Un tout petit passage sur, j'avais pas fini, sur extra verbum. Parce que souvent on se pose la question je voulais vous le dire parce que souvent on me pose la question quand on est marié au ciel, est-ce qu'on retrouve sa femme ? Chut. Ce que nous enseignons comme certains, c'est qu'au ciel, on se verra tous, même ceux qu'on ne voyait pas sur la terre, et on se reconnaîtra tous, même ceux qu'on n'a jamais connus sur la terre. On se reconnaîtra. C'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un que vous n'avez jamais connu, hein, par exemple, je ne sais pas moi, Vercingétorix, hein, ou je ne sais pas moi,
Charlemagne,
oui, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, vous ne savez pas à quoi elle ressemble, Jeanne d'Arc. Mais quand vous verrez Jeanne d'Arc, vous la reconnaîtrez, vous ne l'avez jamais vue pourtant. Et elle ne ressemble pas du tout aux représentations que... Mais voilà, on se reconnaîtra. C'est ça, c'est beau, ça. C'est vrai ? Mais quand vous verrez, par exemple, je ne sais pas, moi, Jacques, ou Paul, ou Barnabé, ou Jacques le Mineur, vous reconnaîtrez tout de suite. Pourtant, on ne les a jamais vus. Et aussi, nous reconnaîtrons. On sera très flattés. Très flattés. Ça me rappelle un truc. Un jour, j'avais un cousin germain, du côté de ma mère, qui veut se marier. Bon, il veut se marier, il habitait Paris. Et puis, il dit, qu'est-ce qui pourrait me marier ? Moi, j'étais dans la grotte, dans sa même étage. Je n'avais jamais marié personne. Et alors il dit, oh, qu'est-ce qui... Ça ne peut être que mon oncle. Alors, un oncle, un vieil oncle qui avait fait tous les mariages dans la famille. Et puis d'ailleurs sa mère disait, ça peut être que l'oncle. Ça sera l'oncle. Puis c'est tout. Puis de toute façon, c'était impensable autrement. Ils n'avaient même pas songé à quoi que ce soit d'autre. Enfin, quand même, il dit, tiens, ce serait bien qu'il y ait plusieurs, peut-être, qui... Enfin bref, il va à Notre-Dame de Paris, puis il se met... Au pied de la statue de Notre-Dame de Paris, hein. Vous savez, Notre-Dame de Paris, une petite statue de pierre est jolie d'ailleurs. Et puis il se met là au-dessus, c'est pas un mystique pourtant, hein, pas du tout. Hein. Et pas mystique au dingo, mais alors pas du tout. Hein. Et au moment où il est au pied de la statue de Notre-Dame de Paris, il entend sortir de la bouche de Notre-Dame de Paris, c'est Patrick qui doit te marier. Alors, il m'a écrit que je l'avais pas vu depuis 10 ans, 20 ans, je sais plus. Il m'a écrit en disant, bon, est-ce que tu pourrais me marier ? Je dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'écrit celui-là ? Puis il m'a dit, et bien quand il m'a dit ça, et bien j'ai été heureux. Vous savez pourquoi ? Parce que je me suis dit, mais donc, si je comprends bien, la Sainte Vierge me connaît. Mais oui, mais... On le sait vaguement, mais quoi, Saint-Pierre ? Qu'elle s'intéresse à moi actuellement, concrètement. Vous voyez, au ciel, c'est ça. Sainte Vierge nous reconnaît. Pas seulement Sainte Vierge, mais Sainte Vierge nous reconnaît, quoi. C'est normal, c'est parce que j'avais beaucoup étudié la responsabilité. Le sacrement de mariage, la responsabilité. Beaucoup travailler ce qu'il y a dans le sacrement de mariage, à partir des enseignements du Saint-Père. Et j'ai trouvé ça très sympa de la part de ma maman, qu'elle vienne donner la confirmation. Et en plus, à Paris. Par un cousin qui s'appelait Pierre. Et qui s'est marié avec ma cousine maintenant, qui s'appelle Sagesse, Sophie. La sagesse du mariage dans l'église de Pierre. Confirmée par Notre-Dame dans la Babylone des nations. Parce que Paris, c'est la Babylone, d'après une trentaine de saints. Babylone qui doit être détruite. C'est Paris. Au milieu de la Babylone des nations, il y a cette confirmation. Moi j'aime assez ça. J'avoue, je suis flatté. Au ciel, on sera vraiment flatté, mais sympa, si vous voulez. Vous voyez ? Pas d'orgueil. Bon, donc, continuons. Ce que nous enseignons comme certain, c'est qu'au ciel, on se verra et on se reconnaîtra. Tel est le témoignage et le cri constant de la tradition. En Afrique, saint Cyprien, né dans le paganisme et élevé après sa conversion au siège de Carthage, se sentant destiné au martyr, encourage les fidèles à braver comme lui la mort. Et il a leur signal comme un don et une bénédiction du ciel. « Dépêchez-vous, hâtons-nous, vite, dit-il, courons pour voir notre patrie, saluer nos frères. Quelle joie tous ensemble, allons les voir, les embrasser. Quelle joie tous ensemble pour eux et pour moi. » Et chez les Grecs, pendant ce temps-là, à Constantinople, saint Théodore Studite, illustre confesseur de la foi, consolait les familles affligées. Il écrivait à un père dont tous les fils étaient morts, mais vos enfants ne sont pas perdus. Mais il demeure sain et sauf pour vous. Et dès que vous serez parvenus au terme de cette vie temporelle, vous le reverrez joyeux et plein d'allégresse. Saint Théodore Studite écrivait encore à un homme qui venait de perdre sa femme. Ah, c'est pour ça que je vous dis. Parce que je vais trouver ma femme. Mon mari. C'est auprès de Dieu que vous avez envoyé avant vous une si digne épouse. Et qu'est-ce que vous devez chercher maintenant? Vous devez tâcher de la retrouver au ciel, au moment voulu, par la grâce. Sans doute au ciel, les époux venus de la terre seront eux-mêmes comme des anges. C'est sûr. Il n'y aura plus ni homme ni femme. Nous serons comme dans les anges dans le ciel. Donc il n'y aura plus d'activité conjugale. Ça, c'est évident. Mais il y aura une activité sponsale. Et comment? Sans doute aussi les époux venus de la terre seront eux-mêmes comme des anges et n'aspireront plus aux activités conjugales. Mais ils goûteront les plaisirs toujours plus purs de l'esprit dans leur corps. Ensemble, et comme durant leur exil terrestre ils furent une seule chair, ainsi dans la gloire, ils seront un seul cœur, une seule âme, une seule gloire dans leur corps, dans les délices d'une union renouvelée qui n'aura pas de fin. Jamais. Oui, c'est extraordinaire ça. C'est. On pourrait en. De toute façon, c'est inépuisable.